Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du blog mespremièresruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A à Z. Je m'appelle Guillaume et je suis apiculteur depuis 2017. Au hasard de mes pérégrinations sur les forums d'apiculture de Facebook, j'ai rencontré Thierry et je l'ai contacté afin de l'interviewer avec sa femme Sandrine. Voici ce que vous découvrirez d'eux en écoutant cet épisode. Thierry a redémarré l'apiculture après avoir fait une coupure de 15 ans. La particularité de la pratique de Sandrine et de Thierry est qu'ils ont un rucher couvert. Thierry m'a raconté une anecdote, il a été piqué près de 300 fois par des abeilles, qui l'a amené à faire un choc anaphylactique. Ils vous partageront également pourquoi c'est important pour eux de conserver l'abeille noire, une race d'abeilles présente en Europe depuis des dizaines de milliers d'années. C'est parti.
Alors ça a commencé grâce à Sandrine, parce que quand j'ai connu Sandrine, un fils, un grand, qui nous a fait grands-parents il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, et notre grand donc de Normandie, il a décidé de se mettre à l'apiculture. Mmh. Et si tu préfères, il a commencé à nous appeler, enfin m'appeler, pour avoir des conseils, malgré qu'il était en liaison avec un copain à lui qui est apiculteur. Et il m'a tellement bien taquiné à me poser des questions, etc., tu vois, que je me suis dit, waouh, c'est pas possible, il me donne trop envie. Mmh. Et comme j'ai eu, ça je n'en ai pas parlé, j'ai eu un incident, un choc canaf. Comment dire, anaphylactique. J'ai eu 300 piqûres dans les jambes qui m'ont fait arrêter l'apiculture.
300 piqûres dans les jambes d'abeilles ?
Ouais.
300 piqûres.
Ouais.
Oh. Donc, dans une jambe.
Je préfère, les pompiers m'appellent en me disant, à l'époque c'est les pompiers qui appellent, faut que tu ailles chercher un essaim à Arnaville. Le mec il nous emmerde, il est teigneux, mais je reviens, il est spécial, mais apparemment ça avait l'essaim. Donc comme j'avais besoin des seins, je vais chercher les seins et j'y vais tranquillou, quoi, tu vois, short, t-shirt, machin, etc. Et j'arrive, il me dit, ouais, ça fait longtemps que je vous attends, c'est pas de ma faute, hein, si les pompiers ont réagi comme ça, je viens d'avoir la nouvelle. Et le gars, il avait les seins qui s'étaient mis au bout d'une branche de mirabellier et il a trouvé le moyen de tirer dedans la carabine pour les faire partir. Oui, oui, t'as bien entendu. Donc au bout d'un moment, il a coupé la branche de mirabellier, l'essaim est tombé par terre, la reine étant blessée, je pense, ou désolée, enfin peu importe, l'ensemble de la colonie s'est fixé à terre, et ça faisait 3 jours qu'elle était fixée à terre. Donc quand j'y étais, je préfère, j'ai pas vu aussitôt, elle avait l'équivalent de ma main construite en cire, déjà blanche, tu sais. Donc quand je suis arrivé, je me suis fait larder la gueule, aussitôt j'étais me rhabiller. Et j'ai pris mon essaim, et comme on le faisait nous à l'époque, donc j'ai pris l'ensemble de ma ruchette, et comme on fait chez nous en Lorraine, comme je l'ai appris, on met la ruchette dans une cave fraîche, à l'occurrence mon père a une cave qui fait 12 degrés, et on lui laisse passer toute la nuit dans la ruchette, et le lendemain soir, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, moi je l'ai appris comme ça, on recharge une ruche faible avec un essaim neuf. Ça veut dire qu'avant qu'on ait savoir si la ruche est bourdonneuse, si on se rend compte qu'on a vraiment une ruche où il y a une reine qui est faible, eh ben on prend un journal, on ouvre le couvre-toit, on pose un journal sur la ruche qui est faible, on rajoute une hausse, un corps de hausse, on baigne l'ensemble de la ruchette posée sur le journal comme ça, on referme avec un couvre-toit et on laisse se dénerver. Donc comme c'est le soir, l'essaim ne s'envolent pas. Les deux reines font leur soupe, que la meilleure gagne, c'est la bonne de la nature. Alors généralement, on les asperge avec un peu d'eau vinaigrée pour qu'elles aient la même odeur. Avant, on pose le journal et après. Mmh. Et généralement, le lendemain, tu as une ruche qui est nouveau pleine, en espérant que c'est la bonne reine qui est restée. Mmh. Et ça fonctionnait. Et nous, on a, dans le village, tout le monde fonctionne comme ça. Le mec, c'est marrant parce que le mec qui a appris à faire l'apiculture aux jeunes du village, qu'on reprit d'ailleurs lui, on est 5, on a tous appris sa méthode. Donc je préfère, c'est une méthode qui est assez fermée, qui est assez rustique, mais qui, quelque part, a toujours marché pour porter ses fruits. Moi, en 12 ans, à part une fois où au printemps j'ai une ruche bourdonneuse, je n'ai jamais perdu de ruche. On n'a jamais été touché les rennes. On avait de la noire, voilà. Est-ce qu'on avait des noires agressives? Ben non, tantôt on se faisait piquer parce que, ouais, parce qu'on fumait, donc on avait forcément une haleine de coyote et les abeilles, elles n'aiment pas l'odeur de la cigarette, ou parfumée, ou des choses comme ça. Mais des attaques en règle, non. Donc, bilan des courses, je ramène ma ruchette pour la mettre dans le rucher couvert, le premier que j'avais envoyé, le verre, là, Le ruche est vert. Et au moment où j'ai ouvert le haut du capot, j'ai su que c'était la guerre. J'ai senti l'odeur de phéromones. Et là, comme un imbécile, j'avais mis un velours côtelé. Et c'est une côte, un espace libre qui touche la peau, une côte, un espace libre. Elles se sont agglutinées sur mes jambes et je me suis pris 280 piqûres dans mes jambes. J'ai terminé ce que j'avais à terminer. Je suis redescendu, quand mon père m'a pu traverser le potager, à travers le potager, il y a avec tout ce qui ne va pas, il ne prend pas le chemin. Donc il m'a débarrassé, comme il a pu, des commandes dernières qui étaient là. Je suis rentré à la maison, j'ai bu un verre d'eau, j'ai vomi. On appelle Toubib, il m'a dit que j'avais fait une crise vagale, il m'a dit comme tapiculteur, t'as l'habitude. D'accord. Le soir, j'ai compté, j'en avais 280 et des poussières, des piqûres. Et c'est tout. Et là, jusque-là, pas de problème. Un mois après, j'ai un ami qui est maire d'un petit village, un ami à mes parents, un papy, qui me dit, Thierry, on a un souci. On a un papy qui est décédé durant l'hiver, et c'est bizarre, ses ruches font un drôle de bruit. T'as compris la suite ? Le papy, personne ne s'occupait de ses ruches. Elles étaient sans hausse, d'accord. Imagine-toi, 8 ruches, sans hausse, en plein mois de juin. Ça dégueulait le miel partout. Elles se pliaient entre elles. Un truc de fou. Donc, quand j'ai vu, toujours, attention, en rucher couvert. Hein, chez nous, on a beaucoup de ruchers couverts. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, c'est bon, je ne touche pas, je reviendrai un soir, je verrai ce que je peux faire. En plus, c'est de la borneau. Les ruches étaient belles, ça m'intéressait. Et quand je suis parti, il y en a une qui m'a piqué dans la nuque. Bon, c'est tout. Et quand je suis arrivé chez le pote, je suis tombé. Boum. Donc là, j'ai fait un œdème de quinte, etc. Et là, on m'a conseillé vivement d'arrêter l'apiculture. J'ai continué un peu, j'ai bricolé. Et quand j'ai perdu ma femme d'un cancer en 2005, j'ai complètement arrêté. Donc là, pourquoi ? Donc après Nice, c'est particulier parce qu'on n'a pas de mecs qui bricolent fort. Donc on n'a pas de buckfast. On est encore sur des populations noires qui sont sûrement hybridées parce que tu ne peux pas empêcher un mâle de faire 6 km pour effectuer une reine en vol. De temps en temps, dans une des miennes, sur une de mes reines, elle doit taper dans un spermatèque où il y a de la buck, parce que j'ai du jaune, parce que tout qui vient, puis après ça part, d'accord. Mais les deux autres, c'est que de la noire. Est-ce qu'elles sont plus agressives? On s'est fait piquer, on est comme un couillon. Quand j'ai construit le rucher, j'ai mis contre le potager, les ruches. J'ai envoyé une photo où tu as des bassins et où les trois ruches sont posées. On était contre le potager, donc Sandrine s'est fait piquer 4 fois, moi 3 fois, mon père 2 fois. Et ça, c'est un peu normal, on est dans la trajectoire. Et puis la période automnale est toujours, elles sont toujours un peu plus agressives. Mais j'ai jamais eu d'attaque en règle où je me faisais latter avec 200 ou 300 abeilles autour de moi qui bourdonnent. Quoi. Donc ouais, c'est voilà. Donc grâce au fils de Sandrine, je me suis remis. Donc j'étais voir un allergologue qui m'a fait différents tests et quand les tests sont revenus, j'étais plus du tout allergique aux abeilles.
Comment est-ce qu'il a vu ça? Comment
il ils m'ont fait une prise de sang, ils m'ont fait 4 éprouvettes et ils m'ont testé sur 4 abeilles différentes, de souches différentes, quatre apis différents.
Ok.
Parce qu'apparemment, en fonction des abeilles et de leurs origines, elles ont, je pense, un schéma génétique au niveau du venin qui est totalement différent.
Ok.
C'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc, il m'a testé, le mec m'a rappelé au téléphone, il m'a dit, ça y est, vous pouvez reprendre l'apiculture. Et en effet, je me suis fait piquer plusieurs fois. Je gonfle un peu, mais c'est pas méchant.
Ouais, c'est OK. D'accord. J'avais appris un moment la différence entre le réactif et l'allergique. Et là, c'est plus du réactif.
C'est du réactif, voilà. Alors maintenant, quoi qu'il en soit, on y va toujours avec Sandrine, avec nos tenues, et on fait attention. Et on verra, même durant le printemps, si je dois aller chercher des essaims, je ferai plein d'attention. Voilà.
D'accord.
D'abord, à partir du moment où, à partir du mois d'avril, je vais avoir dans la camionnette une ruchette d'avance, une tenue complète, de quoi ramasser un essaim, le cueillir essaim, etc. Et tout. Parce que là, je vais imprimer des cartes postales, comme je suis imprimeur, c'est un peu plus facile, et à déposer dans les communes pour me signaler quand il y a des essaims à récupérer. Et le but, voilà.
Ok. Et à l'origine, comment est-ce que tu avais appris? Et Sandrine aussi? Comment est-ce que tous les deux vous avez appris?
Alors moi, pour l'instant, en fait, on a commencé au mois de mai.
Ouais.
Donc pour l'instant, je suis Thierry. J'ai absolument aucune connaissance. Donc j'ai encore pas fait grand-chose à part de l'observation.
Si, t'as changé des cadres, t'as remis des cadres, t'as intervenu dedans. Et on s'est inscrit. Alors notre but, c'est quand même un jour de pouvoir faire nos rennes. Et on aimerait, donc c'est pour ça qu'on est adhérent à labeille noire.be, je pense que tu connais.
Non.
Mellifica.be, Mellifica, je t'enverrai le lien. Et c'est près de Chimay, donc ils sont à 2 heures de chez nous, là, parce que nous, on est à la frontière, on est sur le Benelux, hein, à la frontière luxembourg-belge-allemande. Et l'intérêt, c'est de conserver de l'abeille noire, parce que je pense, peut-être à tort, hein, qu'à force de jouer les apprentis sorciers avec les buffas, on a des abeilles de plus en plus douces, mais je ne suis pas persuadé qu'ils produisent plus, certes, mais qui, je suis persuadé, ne seront pas adaptés au changement climatique qu'on va connaître.
Mmh. D'accord. Voilà.
Je préfère moins produire de miel, et c'est important parce que c'est un tiers, hein, la buffas, c'est un tiers de miel en plus par rapport à de l'abeille noire. Je préfère moins produire, mais avoir des abeilles moins fragiles et que je ne passe pas mon temps à les nourrir. Quoi. C'est un point de vue maintenant. Tu es avec quoi, Guillaume? Abeille noire ou...
J'ai... Maintenant, abeille noire, j'ai démarré un peu avec de la buckfast. Et après,
oui.
Et après, non, j'avais acheté un essaim l'année dernière, c'était la Carnica.
Ouais, on m'en parle aussi de la Carnica. Ouais. Et il y a un mec d'ailleurs sur la page Facebook là, qui en parle souvent. Et je suis ami avec lui d'ailleurs. Mais tu regardes actuellement, tu ouvres un plateau de buckfast, la grappe, elle est nombreuse, elle monte sur le haut des cadres, tu ouvres de la baie noire, tu ne le vois pas, elles sont au centre, une boule compacte, elles sont au centre. Ça n'a rien à voir, hein, tant en comportement, tant en manière de consommer, c'est moins nombreux, ça consomme moins en hiver, ça démarre moins vite que la buckfast au printemps. Donc quand il y a un printemps merdique comme on a eu en 2021, elle est plus résistante. Moi, tous mes potes du village sont tous de la noire et de la voirneau, associés à de la voirneau, je précise. Mmh. Ça, c'est l'expérience que j'ai. Hein. Ils ne nourrissent pas. Hein.
Ils ne nourrissent pas. Et les cénages? Ça se passe comment avec la...
C'est normal, il y a 2, 3, 5 qui se baladent dans l'année. Ouais. Et puis voilà, quoi, on circule entre nous et puis on les voit. Moi, je sais qu'on a une chenille juste à côté de chez nous. Systématiquement, il y a un essaim qui vient se dedans. Quoi.
D'accord. D'accord.
Par contre, il y en a un hier qui ne traite pas. Et ça, je suis en colère avec après eux parce que justement, au niveau du barbois, ce n'est pas terrible.
Ok. Il y en a qui ne traitent pas du tout, qui disent...
Ah ouais, moi j'en ai deux. Sur les 5 qu'on est, j'en ai 2 qui ne traitent pas.
Ok. Par ignorance ou vraiment par volonté?
Par volonté de ne pas dépenser du pognon et puis voilà.
Okay. Est-ce que leurs essaims sont contaminés?
Tous les essaims sont contaminés, ouais. Sans exception. Ouais. Toutes les ruches ont du barbois. Guillaume te le confirmera.
Oui. Malheureusement, hélas. Ouais. Ouais. On a dit que même à Cuba, ils n'avaient pas de varroa, mais il y a Léandre qui a une... Léandre, c'est un apiculteur professionnel qui est... J'ai oublié, non.
Il fait une émission qui s'appelle...
Une saison aux abeilles.
C'est ça, on le suit. Ouais.
Et à un moment, il est allé à Cuba, voir là-bas comment ça se passait, parce qu'on disait qu'il n'y avait pas de varroa, il est allé voir, mais il y a même du varroa là-bas.
D'accord.
Il y a beaucoup moins de produits chimiques, ils font un très bon miel et ils exportent énormément de miel, mais même à Cuba, il y en a, malheureusement.
Alors quand tu dis moins de produits chimiques, c'est par rapport aux cultures ou par rapport au traitement du
vin? Par rapport aux cultures, parce que Cuba, ils ont subi un blocus, le blocus des États-Unis, donc ils n'ont pas pu importer beaucoup de produits, notamment des pesticides. Et ça a eu des mauvais côtés, mais ça en a eu également de bons. Le bon, c'était justement de favoriser l'apiculture là-bas.
D'accord.
Ok.
Et... C'est quoi votre objectif à tous les deux pour l'apiculture? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Donc, apparemment, c'est pas pour le miel.
Non, enfin, pas en première intention. En tout cas, c'est le plaisir d'avoir des abeilles, de découvrir leur façon de vivre, puis partager ça ensemble et puis avec les gamins.
Voilà. Puis on a beaucoup d'arbres autour. On a en tout 1,5 hectare de verger. En gros, c'est ça, ouais. Et on a remarqué une chose cette année, les framboises, l'année dernière, on n'avait pas d'abeilles. Hein. Mmh. Cette année, on avait des framboises, on a eu plein de framboises, l'année dernière, on n'avait quasiment pas.
Mmh.
Et il y a un réel apport en termes de pollinisation sur les arbres fruitiers.
D'accord.
On est entouré d'arbres fruitiers, on n'est pas sur des plaines céréalières, on a un peu de céréales à 3 km de là, ou des fois à 1 km, mais grand maximum, et c'est des petites parcelles, quoi. Donc, je préfère, on n'est pas... Il y a plein de ronces partout, il y a plein de lierres partout, il y a plein de vergers en friche avec plein de fleurs, plein d'aubépines aussi. On est vraiment sur on est sur un secteur, je préfère, qui n'a pas bougé depuis 30 ans. C'est-à-dire que la part de TGV qui est passée, il n'y a rien eu de changé en termes d'agriculture. Justement, il y a moins de pesticides, c'est encore mieux. Personne ne traite les arbres ici. Nous, dans notre potager, on a permaculture, carré potager et potager traditionnel. On n'a pas un pesticide, on n'a pas un insecticide. Okay. Attention, on n'est pas des écolos, Guillaume. Hein. on est des ruraux conscients qu'il faut avancer sur le système. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec, comme j'ai écrit, je ne sais pas si tu as vu dans mon texte, j'ai beaucoup de mal avec les gens de la ville qui essayent de nous dicter nos lois à la campagne. Hein.
Ah oui.
En termes de chasse, en termes de pêche, en termes, etc.
Oui, voilà. Oui, je comprends. C'est, ils sont souvent très, enfin, les citadins sont très éloignés de ce qui se passe ailleurs et oui, c'est une sorte de, je ne sais pas comment appeler ça, un biais, mais parce que on est loin, on croit qu'on peut juger de tout de
tout nos. Tout à fait. Ouais, nous, on ne juge pas, on essaye de s'adapter à de nouvelles méthodes, beaucoup plus propres et beaucoup plus pérenne, mais en aucun cas on se permet de juger. Peut se permettre de juger.
Oui, ouais, je comprends. C'est par rapport surtout aux personnes ou aux politiques?
Les deux.
Les deux, ok.
Les deux.
D'accord. Pour en revenir à l'apiculture, j'ai vu que tu avais fait le choix du rocher couvert, j'ai vu que tu avais expliqué un peu pourquoi. Est-ce que c'est plutôt local? Enfin, où je sais que c'est enfin, il y a des rochers couverts en Slovénie, il y en a également en Suisse. Pourquoi tu as voulu créer ça? C'est parce que justement on te l'a appris comme ça? Parce qu'il y a, il y a des vents dominants?
Non, dans le village déjà, le papy, on en revient toujours à la même personne, on en revient à M. Ferdinand de Nichy, paix à son âme, avait un rocher couvert. Donc il disait aux jeunes du village qui voulaient apprendre l'apiculture: fais ton rocher couvert. Quand ton rucher est terminé, je te montre et je t'explique et je te donne des ruches. Il est fabriqué lui-même. Ouais. Donc, ils ont tous, y compris moi à l'époque, on a tous fait un sujet couvert. Et pourquoi? Parce que Prigny est sur, imagine-toi le plateau lorrain, tu as le sillon lorrain qui correspond à Lunéville, Nancy, Metz, Thionville, c'est la vallée de la Moselle. Et tous les plateaux autour de la vallée sont venteux. Et Prigny est un escarpement en bout de plateau. Et forcément, quand ça souffle, et bien ça souffle. Et le petit vieux me disait toujours, et ça j'ai gardé cette méthode-là, toujours l'orientation de ton rucher par rapport à ton rucher couvert, et tu ne seras jamais embêté, tu n'auras jamais de problème de moisissure ni de condensation. Et en effet, il a raison. Il a raison.
Jamais de problème de moisissure ni de condensation avec un rucher couvert.
Ouais.
D'accord.
Pourquoi? Parce que le ressenti avec le vent lorsqu'un rucher est mouillé, qui peut faire 2 degrés, t'as un rucher mouillé, t'as du vent, ça descend en moins 2. Oui. Toi qui es de la montagne, tu veux le savoir, ça.
Oui.
Et pas d'humidité, donc il n'y a pas de souci particulier. C'est pour ça que le premier, je l'avais fait comme il m'avait demandé de le faire, je l'avais fait fermer complètement sur le devant. On laissait seulement que la trappe des ruches. Et là, je ne l'ai pas fait comme ça, je l'ai laissé justement pour que le soleil, comme l'orienté sud-est, viennent taper sur les ruches. Je ne sais pas encore si j'ai bien fait ou pas, je peux toujours le fermer. Mais là, j'ai étudié le système.
Parce que là, pour l'instant, le nouveau rucher date de 2021.
On l'a fait cette année, là.
Oui.
Normalement, je vais faire le rucher et avoir les ruches de l'année prochaine. Mais quand mes amis, mes potes apiculteurs ont su que je commence à faire le rucher, ils m'ont dit: ah, je ramène des essaims. Donc en urgence, on a été acheté 3 ruches Warneau à la coopérative de Marly, dans le 57, c'est une super coopérative. Et aussitôt, je les ai montées devant le potager pendant que je travaillais derrière pour monter le rucher. Et le but, c'était qu'elles soient à l'abri, c'était la mission, pour l'hiver. Voilà.
Okay.
Maintenant, la Warneau est totalement différente de la d'avant. La Warneau, c'est un cube parfait, avec un UPI à l'intérieur de 36 cm par 36 cm. D'accord.
Et donc, les cadres peuvent tenir dans tous les sens. Enfin, c'est...
Tout à fait, ouais.
Et tu es en crémaillère ou tu es en lisse?
Les deux, parce que avant, j'étais en crémaillère et là, je suis en train de tester l'autre système.
C'est... s'appelle Hoffmann.
Hoffmann, c'est ça, ouais. Donc j'ai acheté d'abord les cadres Hoffmann vont sur la crémaillère, donc qui peut le plus peut le moins.
Quand j'en parlais avec Jean Riondet pour le pour les cadres Hoffman, il disait que la France était le seul pays à avoir comme base la crémaillère. Les autres pays, c'est de l'Hoffman. C'est-à-dire, il y a un petit bord supplémentaire sur les cadres, ce qui fait que lorsqu'on, en fait, elles ont ce bord lisse, c'est-à-dire on peut les faire glisser les cadres, les uns à côté des autres. Et un petit bord qui permet d'éviter que ça s'écrase, en fait, que les cadres s'écrasent. Et apparemment, la France, elle a cette spécificité-là.
Les autres pays ont raison, c'est eux qui ont raison, c'est pas nous.
Pareil, oui. Oui.
Moi, je sais que tout doucement, je vais basculer sur l'Hoffman. Le problème, c'est que j'ai arrêté il y a 16 ans et j'ai repris mes habitudes il y a 16 ans. Et je découvre les plateaux aérés. On n'avait pas de plateaux aérés, où les plateaux étaient pleins. Quand on mettait notre linge pour voir si le Livarois, après avoir mis de la pistan, on mettait une feuille d'aluminium toute fine, de plaque offset d'imprimerie avec de la glace à traire dessus, d'accord ? Et on retirait notre feuille pour voir le nombre de varois qui étaient dessus. On n'avait pas de partition. Ben non, parce que quand on récupérait un essaim, et comme une ruche guano est beaucoup plus petite au niveau du volume intérieur qu'une ruche d'Adam, on croisait les doigts pour qu'elle travaille bien. Et qu'elle travaille bien, mais je pense que c'est propre au local, parce qu'à Prigny, on a un château médiéval qui est constitué de remparts et de tours, et qui n'est pas entretenu. Toutes les tours qui font aller facilement 20 mètres de haut, et les remparts aussi, et qui font à peu près un déroulé entre les remparts, qui fait bien aller, on va dire, 600 ou 800 mètres, sont couverts de lierre. Et quand je dis couverts de lierre, tu ne vois pas les pierres. Donc, à la bonne saison, à la fin de saison, qu'est-ce qui se passe? Ben, les abeilles vont butiner le lierre, et vous pourrez quasiment faire une hausse avec du miel de lierre. Mais le but, il n'est pas là. Le but, c'est d'avoir des ruches qui soient fortes pour l'hiver. Et je pense que quelque part, le fait qu'on ne perd pas beaucoup de colonies après nid, c'est de l'ordre de 2 à 3% pour le peu que j'ai entendu parler. Et encore, des fois, ça peut être une fausse manipulation qui tue la reine en fin de saison. Parce que les papis que j'ai, moi, c'est tu les verrais aller aux ruches, ils ne sont pas tendres, quoi. Ils y vont. Ils y vont peut-être 3-4 fois dans l'année, mais pas plus. Hein. Et quand ils y vont, ils ne sont pas là comme nous à regarder, bien regarder, si on voit notre traîne, etc. Tac, je t'enlève celui-là. Leur dire qu'il faut enlever les essaims de vieillissir vers la droite et vers la gauche pour progressivement pouvoir les enlever et les permuter avec des feuilles gaufrées propres, c'est même pas la peine de leur expliquer. Ils n'en ont rien à faire. Hein. Et voilà, et je pense qu'on doit notre réussite en termes de survie durant l'hiver grâce aux lierres, qu'elles peuvent rentrer. Oui. Moi, elles ont rentré du pollen jusqu'à fin octobre.
Fin octobre.
Mais quand j'y ai rentré du pollen, de mon assemblée, hein, je faisais des vidéos, mais un truc de fou, quoi. Okay. Et elle rentrait du pollen, elle rentrait. Et j'avais des ruches, là, en Voirneau, nos ruches pesaient 40-42 kilos.
Impressionnant.
Oui, c'est impressionnant. Maintenant, je vais te dire franchement, je suis curieux de voir au printemps ce que ça va donner. Par contre, moi, je vais nourrir, je vais mettre un pain de commande Candy au mois de janvier. Hein. Ou trois. Hein. Maintenant, je suis curieux de voir ce qui va se passer au printemps.
Parce que là, tu fais quoi en ce moment avec l'hiver, est-ce que tu tends l'oreille contre la ruche? Tu fais un peu un toc-toc pour voir si c'est toujours en vie?
Non. Je les laisse tranquillou. Je balaye de temps en temps. Comme tu as vu devant, j'ai des planches. Donc souvent, elles me déposent des abeilles mortes. Mmh. D'accord. Je vois qu'il y a de la vie, parce que comme je balaye un petit peu, j'ai les traces d'opercules, des rayons de miel qui sont posés devant. J'ai une ruche qui était beaucoup plus forte et qui perd beaucoup plus d'abeilles que les deux autres. Donc ça, je ne sais pas. Le contrôle varrois que j'ai fait après avoir enlevé mes ruches et les avoir déplacées, ce que j'avais mis en dessous, j'ai eu 5 varrois, je crois, en gros par ruche, sur une période de 12 semaines.
Ça va.
Oui. Mais je n'ai pas trop à me plaindre. Par contre, comme c'est un plateau, le fond est qu'à moitié ouvert, donc il est ouvert au centre, c'est possible qu'il y en ait une autre. Je le verrai au printemps prochain quand je vais changer mes plateaux, parce que je vais intervertir mes plateaux. Voilà.
Pour nettoyer et passer un coup de chalumeau dessus.
C'est ça, ouais. Et où on a une grosse lacune, c'est que tout ce qui est traitement autre qu'à piston et à pivard, on ne le fait pas, ni timol, ni etc. Et ça, il faut qu'on se renseigne. J'ai des copains qui le font, qui vont venir m'expliquer comment ils font. Mais voilà, si je vois que je n'ai pas trop de problèmes avec mes 12 semaines d'Aviva, ce n'est pas sûr que je fasse du Timol ou d'autres interventions. Sur... Ouais, c'est ça. Ouais. Sur mes abeilles. Ce n'est pas évident, parce qu'avant, ça fonctionnait comme ça. Par contre, il y a une chose que je ne peux pas estimer, c'est est-ce que la, le, par rapport à il y a 15 ans, est-ce que le varroa s'est habitué à ces molécules chimiques et est plus résistant à ces molécules? Et je pense que oui, d'une manière ou d'une autre, par rapport à tout ce que je peux lire sur les différentes pages Facebook, oui, je pense que oui. Donc, il est clair qu'on va approfondir l'année prochaine de manière beaucoup plus pérenne le cas varroa, sachant que j'ai cette année, quand j'ai rentré mes 3 essaims secondaires, que j'ai fait grandir en ruches de 6 cadres Voirneau pour les mettre ensuite sur des ruches de 12 cadres, de 10 cadres en Voirneau, sachant que là j'avais mis des partitions et au, comme j'avais une ruche qui travaillait beaucoup plus que les autres, elle a fait deux, elle a ciré 2 cadres pour la droite et la gauche. Et donc l'année prochaine, quand je rentrerai des essaims, je traite immédiatement à la Vivar pour 12 semaines. Ça c'est clair, et je ferai sûrement du Timol en fin de saison avant l'hiver. Voilà.
Ok.
Mais ça c'est ma grosse lacune, on ne sait pas vraiment où on va, on ne sait pas comment sont nos ruches actuellement. J'ai pas envie de désolidariser la grappe, je vais attendre le printemps. Voilà.
Ok. D'accord. Quand j'avais posé la question, qu'est-ce que tu inscrirais sur un panneau géant et que tu voudrais mettre devant chaque rucher de tous les apiculteurs? T'as marqué « Homme blanc marchait trop vite, pas assez regardé ».
Ouais.
Ça vient d'où cette phrase? Enfin, où cette...
chasseur à l'arc.
Oui.
Et en tant que chasseur à l'arc, on s'inspire énormément des techniques amérindiennes pour chasser. D'accord. Et les Amérindiens disent de l'homme en général et pas qu'à la chasse. « Homme blanc marchait trop vite, pas assez regardé », parce qu'on veut faire tout trop vite. Et je pense que certains apiculteurs veulent faire tout trop vite. Et je pense que l'observation avant est mère de sûreté et permet quelque part de sécuriser pas mal de choses.
D'accord, observer.
Observer, ouais. J'ai un ami qui est mon parrain, qui s'appelle Gilles. J'essaierai de lui faire passer ton reportage pour qu'il puisse écouter. Il va sourire. C'est quelqu'un qui me dit toujours, chaque ruche a son caractère, chaque ruche a ses particularités. Il n'y a aucune ruche qui se comporte de la même manière. C'est comme un individu, et il a raison. Et je le vois tous les jours. Hein. Je vois là, mes trois ruches sont identiques en population. Je t'ai envoyé des photos avec le nourrisseur. Ouais. Tu les vois les trois. Elles sont identiques en population, en termes de volume de population. Elles arrivent au taquet hein, par rapport à la Voirneau. Il n'y en a pas une, lorsque le soleil tape en même temps sur les trois ruches, il n'y en a pas une qui se comporte pareil que l'autre.
Quand tu parlais des curieuses habitudes que tu as, c'est donc de sentir tes ruches, c'est ça, ouais. sentir la
un rucher a une odeur, Guillaume. C'est un type de, quand il rentre dedans, il y a une odeur. Il y a l'odeur. Déjà on y stocke les housses, donc forcément il y a l'odeur de la propolis, et du voilà. Mais il y a une odeur un rucher. Et quand tu rentres, moi tu me fermes les yeux, tu me fais rentrer dans mon rucher, même si je touche pas par terre, je sais où je suis. Et ça c'est alors que quand tu as des ruches qui sont posés dans l'air, tu ne veux pas le sentir. Et ça, c'est quelque part, c'est du baume au cœur, je dirais. Et ensuite, ouais, le papy faisait ses siestes avec un hamac dans son bûcher, quand c'était la période de SMH, et il avait beau ronfler, et c'était les essaims qui le réveillaient, il sortait ses deux casseroles, tapait avec ses deux casseroles, tac, 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 et ça, soi-disant, ça faisait poser les seins tout de suite. Possible. J'ai déjà entendu, hein.
J'en ai entendu parler en rucher école aussi. C'était une anecdote un peu double. C'était une personne qui suivait avec une casserole et qui tapait dessus pour faire imiter le bruit de l'orage, parce qu'en en entendant ça, en entendant les vibrations, eh bien les abeilles allaient se poser assez rapidement. Et aussi, les personnes couraient après les seins parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit de regard. C'est-à-dire, cet essaim, je ne le perds pas de vue parce que c'est mon essaim, parce que j'ai le droit de regard dessus, en fait.
Le papy, lui, avait des poignées de terreau et il le lançait dans le nuage.
Ah oui, ou le carreau.
Il balance une nuée, tu risques rien parce qu'elles sont gorgées de miel, elles sont pas là pour piquer, elles sont là pour construire. Et il lançait une poignée de mus tout léger et ça mettait en panique la reine qui cherchait à se poser.
Ouais, technique.
Ah, des techniques, hein, c'est des techniques. Bon, je pense qu'elles ont eu un effet à une époque. Je pense qu'elles sont moins pratiquées maintenant parce qu'on n'est plus sur une apiculture scientifique. Mmh. Et voilà, mais c'est des techniques de vieux. Hein.
Mmh. Ok.
Été comme hiver, quand il allait voir son rucher, il était en Marcel. Je me rappellerai toujours parce que, excusez-moi, elle ne me pique jamais sur les épaules parce que j'ai tellement de poils, elle n'arrive pas à être... mmh. C'est vrai, il était poilu comme un os. Et je le vois encore, il avait le hamac de tendu au mois d'avril, dormir à ronfler comme un sac dans son rucher. Et dès que par contre un essaim commençait à partir, il l'entendait. Hein.
Impressionnant.
Et ce mec-là a formé tous les apiculteurs sur un rayon de 20 km, on va dire, autour de chez nous.
D'accord. Je pense que ça a dû être terrible pour beaucoup d'apiculteurs aînés de voir le varroa arriver en France.
Ah, je pense.
De connaître les deux périodes en disant sans le varroa et avec le varroa.
Ben moi, je n'ai pas connu le sang, j'ai connu déjà avec.
Hein. Oui.
En 93, on l'avait déjà.
Hein. Oui. Là, il apparaît en 83 ou 86 en France. Oui.
C'est ça, ouais. Nous, on ne mettait pas de la pivard à l'époque, ça n'existait pas, on mettait de la pistan. Hmm.
Ah, ça existait déjà la pistan à l'époque?
Oui.
Ok. Est-ce que vraiment les groupes Facebook t'ont aidé?
Oui. Ils m'ont rassuré.
Mmh. Rassuré.
J'ai vu des choses que je voyais chez moi, je suis un anxieux de nature, et qui avaient une explication pour moi, si je préfère.
Ça m'a quand même, tu avais déjà ton socle de compétences.
Pardon?
Tu avais ton socle de compétences, de connaissances.
C'est ça. Ouais.
Et tu voulais vérifier des choses.
Ouais. Pour moi, c'est toujours hyper constructif. Là, il n'y a pas longtemps, j'avais beaucoup d'abeilles mortes devant une de mes ruches. Bon, c'est la ruche la plus forte. Bon, apparemment, c'est normal. Tu vois, ça m'a permis de me dire, ouais, bon, je peux me faire une ruche. Non, je ne perds pas une ruche. Ça arrive.
D'accord.
Et puis, je me suis fait des amis. Je me suis fait des amis au travers de... Et au travers des écologistes, même d'ailleurs, un écologiste. Au travers de justement des échanges qu'on peut avoir.
Est-ce que Sandrine, toi, tu participes aussi au groupe Facebook?
Non. Ou...
Non.
Non, moi, je préfère la transmission par Gilles, en fait. J'ai besoin d'un contact direct et de voir des gestes et d'avoir une référence. Je trouve que sur Facebook, il y a vraiment trop d'informations différentes, parfois contradictoires. Et pour moi, qui n'ai aucune expérience, j'ai du mal à trouver des réponses.
Mmh. D'accord. Et est-ce que vous avez un peu un bouquin, tous les deux, est-ce que vos bouquins de référence, c'est des bouquins que vous avez en commun, ou vous avez chacun un peu des goûts différents en termes de référence apicole?
C'est une grosse catastrophe ce que je me pose comme question. Parce qu'on a plein de livres, on n'a pas le temps de les lire.
Alors, moi, j'ai quand même parcouru le gros chez Rustica et un petit qui traite uniquement des maladies.
Mmh.
Et puis, en fait, tu ne partageais pas leur point de vue. Moi, j'avais bien envie d'essayer, tu n'étais pas partant. Donc, voilà.
Je préfère au début, et ça, quand tu poses la question à un moment donné, tu me dis qu'est-ce que tu t'es conseillé à. De ne surtout pas faire. Qu'est-ce que je conseille de ne surtout pas faire? C'est justement, c'est mettre la charrue devant les bœufs. Je dirais, commencer par des traitements comme le Timol, etc., quand tu ne sais pas le faire. Moi, je parle du principe qu'il faut monter ses ruches, il faut monter ses colonies par rapport au nombre qu'on a choisi de réaliser. Traiter en chimique au départ.
Oui.
D'accord? Et ensuite seulement, quand tu es stabilisé et que tu commences à avoir un peu d'expérience, t'attacher à faire des traitements différents pour essayer d'être moins chimique si tu le désires, éviter la piston ou la pivard.
Moi, je serais plutôt partie dans le sens inverse. Mmh. J'aurais commencé doucement pour aller vers le chimique par obligation et non pas par choix.
Mmh. Ok. Alors que toi, Thierry, c'est prendre une base simple au début.
Ouais.
Pas compliqué, pas se compliquer la vie avec...
Le temps de poser mes pieds par terre.
Voilà, exactement. Prendre ses bases. Et après, voilà. Aller vers le plus spécifique. Okay.
Voilà.
D'après ce que tu dis, les couvre-cadres en plexiglas ont vraiment changé ta pratique de l'apiculture?
Ouais. Je suis un anxieux, ça me rassure.
Ouais.
Quand j'allais mettre un cadre de corps de ruche à mes essaims, à mes colonies. Je le mettais, je décalais ce qu'il fallait, je refermais. Deux, trois jours après, je regardais, je mettais ma lampe au soir, pouf, et je voyais au travers du plexiglas que ça construisait, que ça allait bien, que ça bossait, et que l'activité de mes cirières était toujours constante. Et Gilles m'a dit, si tu veux conserver en période de juillet-août l'activité de tes cirières, dans ton nourrisseur, les gros blancs là qu'on a, tu mets 1 cm de sirop 50-50 une fois par semaine. Donc tu vas instaurer un système auquel il y a des miellées régulières, et l'activité cirière va se maintenir. Et il a entièrement raison. Ça veut dire quand j'ai intégré en juin mes essaims dans les corps de ruche, donc des ruchettes à corps de ruche, j'ai produit, 12, elles ont produit 12 cadres cirés en 2 mois.
12 cadres cirés en 2 mois.
C'est-à-dire 3 colonies ont construit 12 cadres cirés.
D'accord. Et les cadres, dans les voirneaux, ont la même hauteur que ceux des danans. Pas la même largeur, mais...
Voilà. C'est un carré parfait.
Oui.
Okay. Et c'est exceptionnel. Et d'autant plus qu'ensuite est arrivée la période fin de tournesol, parce qu'on avait un champ de blé au-dessus, le mec il avait mal moissonné son tournesol, enfin il y a eu des regains qui se sont compoussés de tournesol, donc il y a eu une dizaine d'hectares de faux tournesol, il y avait une plante tous les 2 mètres, 3 mètres, plus l'hectare et le pollen de hier. Elles ont rentré. Quand il a fallu que je lève ma première ruche pour la nuit, parce que, autre souci, mes 3 ruches étaient à 25 mètres de mon rucher qui était terminé. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, bien sûr, quand tu étais en train de construire ton rucher, derrière, tu avais tes ruches posées devant parce que tu avais récupéré les essaims. Comment tu as fait? Tu pouvais déplacer, oui.
Eh bien, j'étais emmené à 5 km de là.
Oui, ouais. Ok.
J'ai les laissé pendant une semaine chez un pote qui est dans une entreprise fermé, grillagé, avec chien et tout, avec caméra de surveillance. Moi, j'étais sûr qu'elles sont en sécurité. Et une semaine après, j'étais les prendre, mais elles pesaient à main de mort. Tout seul, j'avais du mal à les prendre. Pourtant, je suis un gaillard de 96 kg. Je porte un sac de 40 kg sans problème. Et là, j'en ai chié pour les porter. Je me suis dit, mais qu'est-ce? Elles ont du plomb à l'intérieur. Non, elles se sont bien gavées de lierre et de tournesol.
Impressionnant. Donc, la technique des 5 km. 5 km pendant une semaine.
Non, tu peux laisser 3 jours, ça suffit. Jours. Moi, j'ai laissé une semaine parce que j'ai fait ça d'un samedi, un dimanche ou samedi, je préfère.
Ouais. Et t'as bouché avec quoi l'entrée? Papier journal?
Oh, bah, j'ai inversé mes grilles, oui, tout simplement. Ouais. Je sais pas si t'as vu, j'ai une grille plastique, moi.
Non, j'ai pas vu.
J'ai une grille plastique jaune, j'ai essayé, c'est pas mal.
Grille plastique jaune, ça veut dire que t'as des planchers.
Bois.
En bois? Et t'as des grilles plastiques jaunes qui vont avec le bois, ok. D'accord.
C'est donc.
Ok. Je pensais que c'était que
J'ai sanglé mes ruches, d'accord, avec le toit en galva. J'ai mis un bout de scotch pour maintenir mes grilles pour qu'elles ne bougent pas. Et j'ai chargé tout ce petit monde-là dans la camionnette et donc la partie. Et je les ai emmenés à 4,5 km à vol d'oiseau. C'est bien parce que Google Earth te donne exactement la distance où tu vas les emmener à vol d'oiseau, au mètre près.
Ouais.
C'est un super outil.
Ouais,
ça... Donc j'étais sûr que je ne me trompais pas, parce que si tu comptes la route, tu es un petit peu dans le jazz. Et après, je les ai ramenés tranquillement. Et là, j'étais mis au rucher.
D'accord.
Et sachant que lorsque je rentre une ruchette, si elle est du secteur, ben, je vais la mettre au bon frais chez mes parents. En 24 heures, et après je peux la déplacer très bien à 3 km pour la ramener après. On ne fait pas toujours avec les ruchettes, mais il faut faire hyper attention. Et par contre, ma ruchette, je la colle tout de suite contre la ruche mère dans laquelle elle va aller après.
Ok.
Et par contre, je mets les mêmes planches en vol de même couleur pour la ruchette et pour la ruche.
Planches d'envol. Mais elles font combien de...
Celles de ruchettes sont beaucoup moins importantes que celles des ruches, mais j'associe toujours la même couleur pour la ruchette et la ruche.
Ok.
Voilà. Ouais. Bon, peut-être que ça ne veut rien dire, mais bon, ça me fait plaisir d'y croire. Le sujet nous passionne tellement que ouais, tous les sujets vivent YouTube.
Comment voyez tous les deux votre rucher dans 5 ans?
Dans 5 ans, oui. C'est moi qui vais prendre la parole.
Pour changer.
Pour changer, ouais. Dans 5 ans, mes colonies seront faites. J'aurai 8 ruches qui seront normalement, et j'espère, en bonne santé. Et l'année suivante, j'aurai commandé dans 5 ans mes rennes noires à Medifica.be. Et j'irai chercher mes rennes noires et j'aurai mes colonies qu'en rennes noires.
Okay. Et comment tu vas faire pour tuer les rennes?
Ben, voilà, point.
Ouais. Et ton but, c'est d'acheter donc des F, ce qu'on appelle des F1, c'est ça, c'est des filles d'une pure souche.
C'est ça.
Oui. D'accord.
Et le but, c'est à partir de ces essaims-là, de récupérer. Est-ce que je fais du picking? Je le pense, parce que là, j'aurais pas le choix. Le pense, c'est de récupérer des essaims, ces essaims-là, et de commencer à alimenter mes collègues à côté quand j'aurai des essaims avec de la noire. Pour limiter la casse. Et le but, c'est aussi d'apprendre à faire mon insémination de reine.
Ah oui, carrément.
Ah oui, c'est la deuxième étape, ça. Trois étapes. Première étape, mes colonies. Monter mes colonies. Deuxième étape, intégrer la noire. Et troisième étape, faire mes inséminations.
Ok, parce qu'il y a un truc, c'est l'élevage de reine. L'autre, c'est le picking. Oui, ouais. D'accord. Ok.
Mais attention, c'est un projet, Guillaume. Peut-être que dans 3 ans, si on se revoit sur la toile, je te dirais, ou dans 5 ans, écoute, je suis toujours avec mes hybrides et ça se passe très bien.
Oui.
Voilà. On ne sait pas de quoi est fait la vie, mais le but, il est là pour l'instant. Enfin, le but, c'est de rester sur un schéma non commercial, même si on va prendre un numéro de siret, parce qu'on les frais, on veut au moins rembourser nos frais, d'accord. Mais le but, c'est pas. Si demain, on devait rembourser nos investissements, parce qu'on a tout racheté, hein. Il nous reste encore à acheter l'extracteur, mais si rien que le rucher nous a coûté 4000 euros.
Oui. C'est un peu la question que je me posais avec justement la partie pour aplatir, pour niveler le sol avec la pelleteuse. C'est ok.
Ça, c'était un voisin qui faisait construire une maison. Ça m'a coûté 50 euros. Je lui ai fait de la pièce. Il s'est dépassé de 200 mètres. Il m'a fait mon terrain.
Ah, ok.
C'est coup de bol.
Ouais.
C'est le côté opportuniste de la chose,
Guillaume. Mais en tout cas, 4000 euros. Et c'est toi qui as énormément bricolé, en fait, pour le construire.
Ouais.
Ok.
Sachant que j'aurais très bien pu prendre du bois de récupération, attendre, récupérer, stocker, etc. Et c'est vrai que quelque part, dans mon impatience légendaire et constante, j'ai été voir un ami scieur qui m'a coupé ce que j'avais besoin en dimension que je voulais. Voilà.
D'accord. Ok.
L'intérêt aussi du rucher couvert, c'est qu'on peut récupérer l'eau.
J'ai vu ça. Le bouchon liège que t'as posé.
Et
tu l'as entouré aussi. Pourquoi il est entouré, justement, pour éviter?
Parce que Sandrine et moi, on n'aimait pas le côté bleu du bidon, je trouve, à côté du rucher. Ouais. Et ça se voyait excuse-moi, je vais être un peu vulgaire, mais comme un pavé dans la tête d'un gendarme. Et voilà. Donc on a dit, on l'habille avec quelque chose, on le met en peinture. Et là, en plus, j'ai planté hier, j'ai planté de la vigne vierge qui va grimper là-dessus et qui va cacher tout ça.
Ah, ok. Et juste devant tes ruches, qu'est-ce qui a été planté juste devant?
Alors, c'est du genévrier.
Oui.
C'est du couvre-sol.
Ah, couvre-sol, d'accord. Donc, ça ne va pas pousser...
Non, ça va monter maximum 30 cm. Par contre, ça peut faire jusqu'à 3-4 mètres de diamètre. Et l'intérêt, c'est que je n'ai pas à faucher devant le rucher pour ne pas me faire friter les oreilles par les abeilles.
D'accord. Voilà. Ouais, je comprends l'intérêt.
Parce que je ne sais pas comment ils font les apiculteurs qui remarquent qu'ils posent leur ruche au milieu de l'herbe. Voilà.
Mais moi, j'ai mis une bâche dessous, une grande bâche, comme ça, ça évite de couper. C'est la première fois que je vois un rucher couvert, surtout en France. J'en avais vu un peu dans des reportages. Dans des reportages en Slovénie où, par exemple, ils aiment beaucoup décorer, faire des belles façades où ils font...
Oui, ils sont magnifiques. Mais le fonctionnement interne n'a rien à voir. C'est plus un système de ruche africaine à plat que de ruche avec des hausses.
En Slovénie?
Oui.
Je sais qu'en tout cas, ils ouvrent la ruche par l'arrière et ils tirent les cadres comme ça dans la longueur.
C'est ça, tout à fait, c'est ça.
Ce qui est très étonnant.
C'est à la suite. C'est pas comme nous, on vient au-dessus. C'est à la suite.
C'est à la suite, ouais.
Et ça, j'ai pas voulu faire. Parce que j'ai pas le modèle de ruche adapté. Voilà.
Ok. D'accord. Bah écoute, je pense qu'on a tout vu. Je sais pas si vous voulez à un moment aborder une autre, il y a autre chose qui vient à l'esprit,
non.
À toi ou à Sandrine. Est-ce qu'il y a souvent des débats avec le fils de Sandrine en disant par rapport à des partis pris par rapport à l'apiculture?
Non, parce qu'il s'est ramassé le pauvre, il a pas eu de chance. Il a du frelon asiatique à Caen. Mmh. Et la seule ruche qu'il avait, c'était une d'Adam. Et là, quand il l'a ouvert, il n'y avait plus rien.
D'accord.
Donc, à mon avis, la reine s'est fait désinguer par un frelon. Et elle a périclité. Et comme il travaillait beaucoup sur sa maison, qu'il avait beaucoup de choses à faire, je pense que c'est peut-être passé au plan secondaire. Et quand il s'en est aperçu, c'est trop tard. D'après ce que j'ai compris, 50 frelons en 3 jours te désinguent une ruche. Hein. Donc, ça peut aller très vite, quoi. Par contre, il va y revenir, il va y revenir à l'agriculture, mais je pense qu'il va faire maintenant un peu plus attention.
Ok.
Non, ouais, donc nous on fera 2 miels, on va pas en faire 36 comme certains font.
On dit ça, peut-être qu'on n'aura rien.
Peut-être qu'on n'aura rien au printemps, mais j'ai jamais vu une ruche vide après-midi. J'ai jamais vu une ruche vide après-midi. Sûrement moins qu'une d'Adam forcée au bec. Mais on aurait un peu de miel quand même. Pour nous, on aura notre miel, en tout cas. Et donc, je disais, j'ai vu nous on fait 2 ramasses de miel. Dès que la première fleur, déjà on met nos housses aux premières fleurs de cerisier.
D'accord.
C'est après-midi, les premières fleurs de cerisier, on met les housses.
C'est quoi, mi-avril?
Ça dépend de l'année. Là, t'es pas sur une date, t'es sur un événement.
Oui, c'est vrai.
Donc les vieux disent toujours ici, les hausses, première fleur de cerisier. Ensuite, on tire le miel à la dernière feuille, à la dernière fleur de colza.
D'accord, ça c'est la première extraction alors.
Première extraction, elle est là. Ensuite. Généralement, là, maintenant, cette année, c'est un peu bizarre, mais généralement, au moment où tu tires à la fleur de colza, la dernière, tu as le début de l'acacia. Et maximum, je dis bien maximum, au 1er juillet, première semaine de juillet, on fait la deuxième tirée.
D'accord.
Et après, on laisse les ruches tranquilles.
Okay.
Nous, on est à 470 mètres d'altitude. Hein. Alors, on a une chance inouïe, c'est qu'on a un vieux château médiéval, je l'ai dit, avec plein de lierre. Mais pour aller au château, on a une allée de 800 mètres de tilleuls qui sont centenaires.
Merveilleux.
Sauf que cette année, les abeilles, ils n'ont pas été parce qu'il y a tellement plu que les fleurs ont coulé. Et l'acacia, on n'en a pas eu du tout. L'acacia, on en est pourri chez nous après-midi. Mais pourri, hein. Donc, si tu voulais faire un miel d'acacia, tu dirais, ouais, allez, première fleur d'acacia, dernière fleur d'acacia, je tire mon miel. Et j'ai fait du miel d'acacia. Je ne suis pas persuadé. Les abeilles, tu ne vas pas les empêcher d'aller ailleurs s'il y a quelque chose à bouffer ailleurs. Donc, on aura un miel de printemps et on aura toute fleur et on aura un miel d'été.
Ok. Un truc qui peut être pas mal aussi en miel, c'est essayer de faire du miel pressé. Non pas extrait à la centrifugeuse comme panier à salade. Pour moi, j'ai une presse, comme une presse à olive, une presse à fruits.
Et ouais.
En fait, la cire est broyée avec le miel et ça donne un coup avec beaucoup plus de cire, qui est, enfin, c'est un miel très bon. En fait, c'est un peu deux parties pris. Certains considèrent que le miel extrait à la centrifugeuse, eh bien, est mélangé avec beaucoup d'air parce que la centrifugeuse tourne à plusieurs centaines, voire milliers de tours par minute, et l'extraction est assez violente et donc le miel frappe violemment contre les parois. Il y a des mules d'oxygène qui viennent se mêler. Ce qui fait que lorsque le miel coule, il va en pot et ensuite on le laisse reposer quelques jours. Il y a beaucoup, beaucoup de mules d'oxygène justement qui remontent et là il y a des odeurs extraordinaires qui remontent. Mais en fait, ils s'échappent. Des tanins, on peut dire des tanins, mais ce n'est pas exactement le bon mot pour le miel.
Si, c'est ça, si, c'est.
On peut dire des tanins qui s'échappent, oui.
Des sentiments,
on va dire. Alors que le miel pressé, il y a beaucoup moins de bulles d'oxygène qui viennent se mêler. Et il y a la cire qui vient se mêler. En fait, c'est quasiment une extraction, on peut dire, très primaire.
Mais je vais dire, mon plus grand plaisir, c'est de prendre mon carré de cire avec son miel, de me le foutre dans la bouche, et terminer avec un chewing-gum. Hein.
Ouais.
Ah. Le kiff, il est là, quoi. Il y a que comme ça où vraiment tu manges du miel. Là, tu manges du miel d'une manière naturelle. Ouais. Quoi. On avait un ami, parce que même si on arrêtait l'apiculture il y a 16 ans, j'étais toujours en contact avec des amis apiculteurs, qui nous a ramené un pain complet d'Adam, un cadre complet d'Adam à manger comme ça. Oh, le bonheur, à la cuillère. Mm. Et même les gosses, même les gamins. Hein.
Mm. Oui. Donc tu dis, enfin, tu ressens une différence au niveau du goût, alors, entre la presse...
On peut ressentir une différence au niveau du goût, oui.
Tu vois passer 200 kilos de miel à la presse ?
Non, pas du tout.
On est d'accord.
Non. Je ferai seulement certains pots. Pour certaines recettes de cuisine, par exemple, ça peut être bien, parce qu'on le ressent bien, mais si... Oui.
Ton miel préféré, c'est quoi, Guillaume ?
Sincèrement, je ne suis pas très miel non plus, un peu comme toi. Je suis ravi d'en donner aux enfants le matin, quand ils ont mal à la gorge. Je suis ravi d'en prendre aussi quand il fait froid. Mais je ne suis pas... Ouais, je suis pas très bien. Châtaignier un peu, oui aussi, comme toi Sandrine, ouais. Châtaignier aussi. Mais oui. J'aime beaucoup le partager, faut pas gâcher le miel, surtout pas, je suis très économe dessus, mais j'en mange pas énormément. J'aime beaucoup cuisiner du pain d'épices.
Mmh. Ah, nous aussi. Ouais. Ça, c'est... La consommation annuelle entre mes parents, les quatre garçons qu'on a et nous, c'est 30 kilos à l'année.
Oh.
Non, c'est donc déjà 30 kilos. Tu vois, si on fait déjà nos 30 kilos, rien pour nous, déjà, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel.
Oui. Ouais. Merci à tous les deux de m'avoir partagé.
C'est un plaisir de discuter avec toi. Parce que tu es passionné, et puis comme tu es venu, on est passionné, bah, c'est toujours. Voilà. C'est très bien.
Ouais. Merci beaucoup. Merci Thierry, merci beaucoup Sandrine.
Prends soin de toi, Guillaume.
Très bonne soirée à tous les deux.
On est content de te connaître.
Merci. Merci.
C'est une belle personne, et puis on espère te revoir un jour chez nous autour d'une bonne table. Voilà.
Avec grand plaisir. Au revoir Sandrine. Au revoir
on
Thierry.
On fera des magrettes de canard au miel.
Avec plaisir.
Allez, à bientôt.
Bonne soirée, à bientôt.
Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie également Sandrine et Thierry pour leur partage et leur convivialité pendant ce temps d'échange. Vous faites partie des 20% des auditeurs qui est allé jusqu'au bout de ce podcast et je vous en félicite. Vous faites partie des personnes qui veulent apprendre. Abonnez-vous à ce podcast. Je suis présent sur Deezer, Apple Podcasts et Spotify. En allant sur mon blog mespremiersruches.com, vous êtes libre de recevoir un guide gratuit de l'apiculteur débutant dans lequel je vous apprends les bases de l'apiculture et des conseils pour bien démarrer et devenir un meilleur apiculteur. Je vous invite à partager ce contenu aux groupes et forums d'apiculteurs que vous connaissez. Cela m'aidera beaucoup à croître. Si vous avez des questions, des idées de sujets, ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit dans cet épisode, je vous invite à m'envoyer directement un email à guillaume@mespremiersruches.com. Je lis tous les emails et cela me permettra de mettre à jour les épisodes à venir. Enfin, si vous voulez, comme Sandrine et Thierry, partager en tant qu'invité sur le podcast, vous êtes apiculteur amateur, apiculteur professionnel ou représentant d'un métier pour lequel l'apiculture est primordiale, contactez-moi directement par mail à guillaume@mespremiersruches.com. À bientôt.